La frontière entre B2B et B2C est de plus en plus poreuse sur les stratégies marketing. En fait, les choses se rejoignent de plus en plus. Et en fait, moi, pour moi, CMO part-time, c'était l'opportunité d'attaquer différentes verticales marketing pour une grande diversité d'entreprises et de le faire en fait en même temps et donc d'avoir une progression exponentielle. T'as ta base de clients, t'as autour encore, t'as ton marché. Et en fait, au croisement des deux, t'as ta communauté qui se compose un petit peu de tes clients et un petit peu de gens qui sont pas forcément tes clients. Parce qu'en fait, le rôle d'une marque parfois, c'est pas de créer la communauté, mais c'est de permettre à une communauté de vivre sa passion. Toutes les marques qui avaient construit des communautés, elles ont eu de grandes difficultés là depuis un ou deux ans parce qu'en fait, elles ont pas réussi à absorber la hausse des coûts d'acquisition, elles avaient un système de marche qui était pas adapté. Qu'est-ce qui montre que ces marques-là n'ont pas de communauté? C'est que quand elles ont dû faire le switch d'augmenter leur prix, de changer leur stratégie marketing, etc., leur communauté déclarée n'a pas suivi en termes de clientèle.
Si vous ne connaissez pas mon invité du jour, laissez-moi vous le présenter. Il s'appelle Jolan et c'est une référence sur le sujet des créations de communautés et du community-led growth en France. C'est une stratégie qu'il a d'abord appliquée chez Atelier Particulier il y a quelques années et qu'il développe aujourd'hui chez ses clients puisqu'il a pris le chemin de l'indépendance en étant part-time CMO. Alors, le sujet de la communauté, ça fait rêver beaucoup de monde et ça a beaucoup été documenté sur des exemples B2C. Donc aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle également de B2B. Est-ce possible de développer une communauté B2B? Si oui, quelle différence avec le B2C? Est-ce qu'il existe un playbook pour ça? Bref, on a fait le tour du sujet ensemble, mais avant de rentrer dans l'échange, je vous invite à liker, commenter, vous abonner et mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et on est parti. Jolan, toi, tu es CMO part-time. CMO part-time, c'est un peu le truc qu'on commence à voir fleurir de partout. C'est quoi un CMO part-time?
Donc effectivement, je suis CMO part-time. J'ai fêté mes 2 ans il y a pas très longtemps. Donc, c'est une toute nouvelle expérience après mon expérience en CDI. CMO part-time, en fait, effectivement, c'est un terme qui est assez marrant. Il est assez galvaudé. Je pense qu'on est assez aligné sur ce point-là. Au sens où, même moi, en fait, tout au long de mon parcours, entre le moment où je me suis mis à mon compte et le moment où j'ai vraiment travaillé sur mon positionnement, j'ai eu pas mal d'évolutions sur comment je voulais me présenter, etc., etc. Et en fait, le CMO part-time, c'est juste une nouvelle manière de apporter des ressources marketing d'un niveau assez élevé, d'un point de vue très stratégique jusqu'à la partie tactique, à différentes typologies d'entreprises. Dans mon cas, moi, je suis CMO part-time pour des boîtes B2B et B2C. Donc, quand je me suis lancé, j'ai fait le choix de pas vouloir prendre de secteurs particuliers et de mettre sur les deux parties. Et je les accompagne sur tous leurs enjeux marketing, de l'acquisition à la partie rétention, etc., etc. Donc, sur tout le funnel, avec pour objectif de les accompagner sur les enjeux de croissance.
Ok. Tu dirais que, enfin, toi, c'est quoi qui t'a motivé à faire ce move-là? Parce que c'est un move qu'on voit de plus en plus, mais ça, du coup, ça m'intéresse de savoir, toi, ce qui t'a motivé.
Je pense qu'il y a eu deux déclencheurs. Le premier, c'est l'envie d'aller tester de nouveaux marchés. Donc, en fait, CMO part-time, t'as l'opportunité quand même de pouvoir, en fonction de comment tu gères ton temps, etc., de pouvoir travailler sur plusieurs missions en même temps, plusieurs business en même temps, plusieurs secteurs, si tu fais comme moi, B2B ou B2C. Et donc, en fait, d'avoir une richesse d'un point de vue marketing, d'enrichissement, etc., qui est vachement intéressante pour ta progression, rien que juste pro. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, à mon sens, la frontière entre B2B et B2C est de plus en plus poreuse sur les stratégies marketing. En fait, les choses se rejoignent de plus en plus. On voit que la partie influence qui se développe de fou sur le B2B, qui est ultra établie depuis très longtemps sur le B2C. Et en fait, pour moi, CMO part-time, c'était l'opportunité d'attaquer différentes verticales marketing pour une grande diversité d'entreprises et de le faire en fait en même temps et donc d'avoir une progression exponentielle et de pouvoir en fait valoriser tout ça.
D'accord. Et toi tu fais partie de... J'ai l'impression que tu fais un peu partie des anciens du modèle part-time CMO parce que même si ça fait 2 ans,
ouais.
J'ai l'impression qu'il y a 2 ans c'était pas trop ça, tu vois,
ouais,
encore.
Ouais.
C'est quoi tes conseils pour les gens qui veulent se lancer?
Déjà, en fait, je pense qu'il faut être assez honnête avec le sujet du CMO part-time. C'est un sujet qui est pas si simple parce que c'est vachement hype, à mon sens. Tout le monde l'utilise, le terme. Et en fait, même moi, j'ai été un peu le premier. Et quand je me suis lancé, à aucun moment, je me suis dit « Ok, je vais être le nouveau CMO part-time de telle ou telle entreprise. » Ce que je voulais juste, c'était « Moi, je suis directeur marketing. J'ai envie de travailler avec plein de types de boîtes. Comment je fais ?» J'ai testé plein d'éléments de langage, de wording, etc. Le CMO part-time est celui qui était le plus simple pour mettre en avant une proposition de valeur. Et en fait, le seul conseil, en fait, enfin, ce que j'ai appris au fil du temps avec tout ça, c'était que ce qui comptait, en tout cas pour moi, et ce qui fonctionne le mieux, c'était de travailler sur des, à la fois sur du très stratégique, donc sur du long terme, en même temps d'avoir une grande capacité opérationnelle, C'est-à-dire que moi, les typologies d'entreprises avec lesquelles je bosse, elles ont besoin de stratégiques, elles ont besoin d'être rassurées, etc. Mais en fait, elles payent quand même pour qu'on puisse délivrer et accélérer et faire des trucs opérationnels, qu'elles aient des ressources ou pas. Très régulièrement, en fait, pourquoi on prend un CMO part-time? C'est parce qu'en fait, elles ont plus ou moins perdu du budget ou des ressources. Elles n'ont pas la capacité d'aller réembaucher quelqu'un. Elles ont besoin de quelqu'un à un moment donné pour faire quelque chose qu'il sait faire et le faire vite et le faire bien. Et donc, en fait, moi, le conseil que je peux donner, en tout cas celui que j'essaie d'appliquer pour moi, c'est d'essayer d'aller chercher, en fait, d'essayer d'un peu de prendre son temps, de bien choisir les verticales sur lesquelles on est bon. C'est pas parce que tu es CMO part-time que tu dois être expert dans toutes les thématiques. Data, inbound, outbound, etc. Moi, j'ai choisi, je sais que l'outbound, par exemple, c'est pas mon sujet, donc je ne prends pas de mission de ce type-là. Et par contre, de valoriser au maximum des missions plus ou moins longues, au moins 3, 4, 5, 6 mois, et de pas mélanger trop de missions en même temps. Parce qu'en fait, on se perd, parce que c'est dur, parce qu'on dépasse tout le temps le nombre de jours qu'on veut allouer dans la semaine, etc. Et je pense que le max, c'est un 2 jours par, enfin, 2 grandes missions en même temps, sinon c'est complexe.
Bah, tu vois, je m'étais noté en question. Comment on gère son temps correctement en étant un part-time CMO?
C'est dur.
T'appuies pile poil sur le truc, quoi.
Tu vois, moi, sur les 2 dernières années, j'ai dû changer 4 fois de business model, en fait, de manière de où je vendais en projet que j'accompagnais, à la journée, etc. Et j'ai surtout changé au moins 3 ou 4 fois de type d'accompagnement. C'est-à-dire que j'ai commencé où j'ai essayé de prendre une grosse mission et des petites missions. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les petites missions, si je voulais bien faire mon taf, en fait, fallait que je creuse. Donc, c'est devenu des moyennes missions. Sauf qu'en fait, y a que 7 jours dans une semaine. Donc, même si je voulais avancer, c'était compliqué. Ensuite, je suis passé dans un format où je prenais que des plus grosses missions en 2 jours, 2 jours et demi, semaine. Mais pareil, ça demande une grosse orga. Et en fait, finalement, pour moi, la clé, c'est choisir des missions sur lesquelles tu as au moins 50 à 60% de l'expertise où tu es ultra bon. Où en fait, tu sais que ça roule de la stratégie jusqu'à l'opérationnel. Où en fait, t'es à l'aise dessus et après, il peut y avoir des choses nouvelles que tu vas travailler où c'est un peu plus délicat. Bien s'entourer, d'autres freelances, d'autres personnes qui peuvent en fait accélérer quand tu peux pas le faire et t'apporter une ressource complémentaire. Ça a été vachement game changer pour moi.
Ah oui, donc c'est pas s'entourer à l'intérieur de la boîte.
Pas nécessairement, en tout cas. Ça m'arrive quand même très souvent d'aller dans des boîtes qui sont plus ou moins structurées. Moi j'arrive maintenant, j'ai la chance en fait au fil du temps d'avoir rencontré des gens avec qui je bosse bien, et sur certaines thématiques, la partie data, la partie trafic et sur la partie par exemple outbound, j'ai 2-3 personnes références. Quand j'en ai besoin, j'appelle, je sais que je le lance, et ça m'a permis de gagner beaucoup de temps, énormément en efficacité, et surtout de pouvoir me concentrer sur le vrai rôle pour moi du CMO part-time. C'est d'être en fait très bon stratégiquement, mais c'est surtout d'être capable de rassurer et d'offrir une du zen. Moi, j'ai une relation directe avec les fondateurs. Le fondateur, quand il me paye pour ce que je vais lui apporter d'un point de vue marketing, mais il me paye aussi pour avoir l'esprit tranquille et savoir qu'on va dans une direction qui lui plaît. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est, un profil qui est plus ou moins senior. C'est de se dire que y a des sujets que je maîtrise pas ou que je vais découvrir avec eux, mais je les absorbe de manière à ce que l'entreprise ou le CEO, il respire. Enfin, c'est beaucoup plus agréable. Et ça me permet d'aller chercher les ressources à gauche, à droite, etc. et de délivrer. Et ça fait 6-7 mois que c'est comme ça. Et là, ça fonctionne bien.
Ok, excellent. Bon, ça, c'était le petit chapitre d'ouverture. Ouais, CMO part-time.
Exactement.
Bon, aujourd'hui, on a un gros chapitre, par contre, à ouvrir, qui est un chapitre Community-Led Growth. Donc, qu'on va appeler CLG ou CLG.
Sinon, ça va être très très long.
Parce qu'à chaque fois, Community-Led Growth, c'est quand même une sacrée expression. Pour les personnes qui écoutent ou qui regardent, on a d'ailleurs fait une édition de Bullish, donc la newsletter de Bulldozer, que tu as pris en main pour parler de ce sujet. Donc là, c'est super parce que cet épisode vient compléter cette édition de la newsletter. Donc, c'est top. J'invite toutes les personnes à aller la lire. C'est quoi du community-led growth?
Yes. Alors, je me suis pas mal creusé la tête parce que si tu m'avais posé cette question il y a 2 semaines, je t'aurais pas forcément dit la même réponse.
Ok.
En fait, j'ai lu là il y a pas longtemps un super bouquin. Alors, c'est plutôt un guide. Toujours un peu de mal avec le nom, mais c'est Unfair Mindshare ou un truc comme ça. Enfin, je te redonnerai le nom plus précisément.
Ouais.
En fait, jusqu'à présent, pour moi, le community-led growth, c'était une vision marketing. Enfin, c'est une stratégie marketing qui a pour objectif de construire autour de sa communauté sa stratégie marketing. Aujourd'hui, depuis que j'ai lu ça, j'ai une vision en fait qui est remontée un tout petit peu d'un niveau. En fait, pour moi, le community-led growth, c'est une vision business. en fait, qui permet une, ou auquel, pour laquelle une entreprise peut structurer sa stratégie business autour de sa communauté et sur laquelle, en fait, elle peut construire sa stratégie product, sa stratégie marketing, sales, etc. Donc ça, c'est très macro, mais le comité de growth au sens stratégique, comme moi je le visualise, c'est une sorte de mindset ou une stratégie globale sur laquelle tu construis tout ton univers business et dans lequel, en fait, tu vas appliquer soit des principes marketing, sales ou contenu, etc., pour en fait rajouter des briques avec des objectifs community qui sont soit drivés par des métriques, etc., etc.
Ok, très bien. Tu as vécu une expérience, toi, personnelle, très axée communauté chez Atelier Particulier.
Yes.
Tu peux un peu expliquer, du coup, toi, l'expérience que tu as fait de comment les choses, elles ont pu être mises en place, l'impact que ça a pu avoir sur le business,
un peu le
playbook.
Ouais, avec plaisir. En fait, donc Atelier Particulier, c'est l'entreprise dans laquelle j'étais avant d'être à mon compte. Je suis rentré là-bas en tant que premier salarié. Atelier Particulier, c'est une très belle marque, en fait, dans l'univers DNVB, donc Digital Native Vertical Brand, où la mission de base depuis 2013, c'est d'être le leader français du savoir-faire en ligne, et donc en fait de valoriser le savoir-faire et de mettre en avant, via leurs produits, via leur stratégie contenu et via leur communauté, tout l'écosystème savoir-faire, au sens large du terme. Quand je les ai rejoints, en 2017, en fait, directement, la marque s'était lancée via Ulule, comme plein de marques à l'époque qu'on puisse lancer. Et en fait, c'était les prémices, on va dire, d'un point de vue très stratégique, de on se construit une communauté en même temps qu'on lance son produit, on développe sa marque et on lance son business. Et en fait, moi, quand je suis arrivé là-bas, c'est là-bas qu'en fait, j'ai appris à faire du marketing et que j'ai développé toutes mes compétences. Et en fait, directement, je l'ai appris par le prisme communauté. Mmh. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que ma vision est très, très peu objective sur le sujet. C'est parce que pour moi, en fait, un business, c'est une communauté, c'est un business. Et donc, en fait, comment ça fonctionne? C'est de la partie produit, de la création du produit jusqu'à la sortie du produit, jusqu'à la manière dont on va animer les gens. On le fait en se basant sur la communauté. Et donc, c'est ce qui fait que des entreprises comme Atelier Particulier jusqu'à aujourd'hui, en fait, elles ont réussi à atteindre, par exemple, moi, je suis rentré là-bas, ça faisait à peu près 150-200 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, on est monté le premier million, on l'a fait qu'avec le cœur de la communauté, sans avoir besoin d'aller chercher une acquisition très très forte, parce qu'en fait on a fait notre expansion en se disant ok, on a des gens qui sont fans de ce qu'on fait et au-delà de la dimension juste les gens sont fans parce que c'est du B2C hein, c'est, ils apprécient les valeurs de la marque, il y a une connexion entre les deux et en fait comment on capitalise sur ça pour générer du business. Et après ce qui est l'exercice qu'on a essayé de faire, c'est de le scaler, c'est de voir comment on peut continuer à faire de l'acquisition, aller chercher de nouvelles personnes, continuer à grossir en tant que marque en allant faire croître cette communauté et en même temps en ayant en tête qu'on peut pas intégrer tout le monde dans la communauté. C'est pas parce que t'as une stratégie communautaire que 100% de tes clients doivent être dedans. Et en fait, la croissance n'est pas drivée que par ça.
Ok, mais du coup, qu'est-ce qui distingue, enfin, tu vois, c'est un très bon point, qu'est-ce qui va distinguer les gens qui font partie de l'audience et les gens qui font partie de la communauté?
En fait, alors si on rentre dans la définition pure et dure, toi, alors je le précise bien parce que c'est important, si jamais il y a des community builders qui nous écoutent, que je me fasse pas assassiner ensuite. Une communauté, en fait, déjà, faut vraiment le différencier d'une audience. Je sais pas si c'est un sujet qui est beaucoup abordé, mais une audience, c'est des gens qui suivent une marque ou une personne. Il y a des interactions, c'est des interactions verticales. D'un point de vue juste, en termes de principe, la communauté, t'as les interactions verticales, montantes et descendantes, mais les interactions aussi horizontales. Donc c'est les membres de la communauté qui interagissent entre eux, soit stimulés par la marque, soit de manière indépendante. Dans le cas, par exemple, d'Atelier Particulier ou d'autres marques qui ont des stratégies community-led grosses, en fait, ce qui fait la différence entre ton marché, tes audiences, tes clients et ta communauté, c'est que t'as des gens qui sont en fait le cœur de ta communauté, c'est les gens qui avec lesquels tu as une relation particulière, sur lesquels tu t'investis et qui s'investissent pour toi pour développer des choses. Et le reste, en fait, c'est ton cercle large, c'est les consommateurs qui te suivent. Et en fait, c'est fine de se dire que tout le monde ne peut pas rentrer dans ce cercle-là, parce que sinon, tu ne peux pas construire une communauté. Une communauté, en fait, c'est à vocation exclusive. Je veux dire, en fait, on est attiré par des affinités personnelles ou professionnelles. On est tous membres de plus ou moins de communautés, tu vois. En l'occurrence, moi, je suis membre de plein de communautés. Je m'investis de manière plus ou moins différente selon les communes. Et en fait, c'est normal de ne pas s'investir de la même manière partout. Et en fait, d'un point de vue juste business, ce qui fait la différence entre les deux, c'est que tu as ta base de clients, tu as autour encore t'as ton marché. Et en fait, au croisement des deux, tu as ta communauté qui se compose un petit peu de tes clients et un petit peu de gens qui ne sont pas forcément tes clients. Je prends l'exemple d'Atelier Particulier. En fait, nous, sur le cœur de notre communauté, on avait 30% des membres qui n'étaient pas des clients ou des très mauvais clients, qui avaient acheté une fois et qui n'avaient jamais racheté. Mais par contre, qui étaient tellement engagés dans le processus de création des produits, dans le fait de défendre la marque sur les réseaux, etc. En fait, on les a intégrés dedans parce qu'ils partageaient les valeurs, et ils étaient intéressés par le sujet, le savoir-faire. Et donc, en fait, ils étaient membres de la dimension communautaire de la marque.
Je reviens juste sur ce sujet de communauté versus audience. Une fois, j'étais tombé sur... je sais plus, c'est un post LinkedIn ou un tweet de quelqu'un qui disait « Non, communauté n'est pas le pluriel de clients. »
Ouais.
Et j'avais trouvé que c'était une phrase assez impactante pour expliquer tu vois, toutes les marques qui disent notre communauté, alors qu'en fait, c'est juste... t'es juste en train de parler de tes clients, quoi. Calmos. Qu'est-ce qui va venir ? Parce que là, tu vois, dans ce que tu es en train de décrire, il y a quand même un point qui est important, c'est que on a le sentiment, tu l'as pas dit, mais moi, c'est ce que je ressens, qu'il y a une frontière qui est très claire.
Entre audience et communauté ?
Ouais. Tu vois, là, quand tu disais, il y a des gens, ils ont acheté une ou deux fois, mais ils sont très engagés, donc on les a fait rentrer dans la communauté. Tu vois, on a vraiment l'impression que, en fait, il y a une porte, et soit tu passes la porte, ou enfin, soit tu es dedans, soit tu es dehors, tu vois.
Ouais.
Est-ce que c'est le cas de toutes les communautés, le fait de bien définir cette frontière ? Comment est-ce que tu définis cette frontière ?
Ouais, alors, c'est pas simple. Alors, il y a deux questions un peu là. La première, c'est déjà, tout le monde a... Le terme communauté a été très galvaudé. Tout à l'heure, on parlait de part-time, là, c'est pareil avec communauté.
Oui, pareil.
Très galvaudé. Mais c'est pas fait volontairement. Enfin, c'est fait parce qu'en fait, les gens se l'approprient. Mais pourquoi toutes les marques n'ont pas des communautés ? Et en fait, le marché l'a prouvé. Je reste dans l'univers des NVB, je pense que ça s'applique aussi peut-être un petit peu en B2B, mais on reste sur l'univers des NVB. Toutes les marques qui avaient construit des communautés, elles ont eu de grandes difficultés là depuis 1 ou 2 ans, parce qu'en fait, elles étaient totalement construites en termes de business model sur Meta et compagnie. Elles n'ont pas réussi à absorber la hausse des coûts d'acquisition, elles avaient un système de marge qui n'était pas adapté. Qu'est-ce qui montre que ces marques-là n'ont pas de communauté ? C'est que quand elles ont dû faire le switch d'augmenter leur prix, de changer leur stratégie marketing, etc., leur communauté déclarée n'a pas suivi en termes de clientèle. Au contraire, je vais reprendre l'exemple d'Atelier Particulier, parce que c'est un très bon exemple que je n'ai pas accompagné en tant que salarié, mais que j'ai accompagné en discutant avec le fondateur. Lorsqu'ils ont, ils ont décidé en 2022 de faire un reboot, en fait, ils avaient 30-35 000 clients. Ils se sont dit, nous, ce qu'on veut, c'est revenir à la base pour reconstruire des fondamentaux encore plus solides. On va partir sur le cœur de notre communauté, qui s'appelle le Club des 1042. Et ils se sont dit, on va construire pendant 1 an tout ce qu'on fait rien que pour eux. Avec ces 1042 personnes, ils ont relancé toute leur stratégie produit, l'acquisition, l'engagement, le CRM, etc. Et quasiment tout le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2023, plus de 70%, n'est fait qu'avec le club des 1042. Sans perdre en croissance par rapport à... Ils sont restés flat par rapport à l'année d'avant. Donc c'est pas croissance, mais parce qu'ils se sont dit, en fait, il y a une déperdition d'énergie entre on veut aller chercher plein de personnes, on pense qu'ils sont de la communauté, mais en fait, ils comprennent pas ce qu'on fait. Ils aiment pas nécessairement ce qu'on fait, ils sont volatiles, ils sont attirés par les prix, etc. Alors que si on s'engage sur les 1042, ça aurait pu être 5000.
Ouais, bien sûr.
Si on s'engage sur ces gens-là et qu'on leur offre quelque chose d'assez exceptionnel et qu'on leur prouve qu'on tient à eux, ils vont nous porter et ils vont être un nouveau relais de croissance pour la suite. Et en fait, quelle est l'étape 2024 ? C'est de recapitaliser sur ces 1042 pour repasser à 10 000, qui va permettre de réengager des gens qui étaient déjà là avant, etc. etc. Donc ça, c'est la première différence entre audience et communauté. Et après, pour répondre à ta question, est-ce que tout le monde est-ce que la frontière est définie ouais. ou pas ? En fait, c'est assez délicat. En fait, je vais te dire non. Pourquoi ?
Ok, bah parce dis-moi
que,
non.
Non, je te dis non parce qu'en fait, à mon sens, y a, dans le community led growth, il y a deux approches à bien comprendre. C'est toutes les marques n'ont pas vocation à être propriétaires de leur communauté. Et en fait, c'est OK de se dire que certaines marques ont leur propre communauté et certaines marques, en fait, vont aller capter des communautés existantes et juste jouer avec ou faire des choses avec pour stimuler leur activité, leurs produits, j'en sais rien, pour stimuler en fait leur business. Et donc du coup, dans ce deuxième exemple-là, vu qu'elles n'en sont pas propriétaires, les gens ne sont pas ou c'est pas grave si les gens sont pas clients. Ce qui compte, c'est que par exemple, il y a une affinité soit dans le business. On peut regarder par exemple, je sais pas, dans l'univers de la finance, il y a la communauté CFO Connect. Je suis pas certain que 100% des gens soient des clients. Et si jamais c'est le cas, ils pourraient l'étendre à d'autres membres de cette communauté, parce que ce qui compte en fait, c'est que les gens soient CFO. Ça marche avec les communautés de CMO. Si un jour on doit être capté par une marque, la marque va nous stimuler. Mais en fait, on n'est pas la propriété de cette marque-là. Mmh. Et donc, en fait, la frontière entre client, pas client, elle se trouve juste dans la valeur que tu veux mettre dans ta communauté et comment tu veux la stimuler pour ton business.
Ok, très intéressant. C'est vrai que la manière dont tu l'as défini, effectivement, si ta communauté elle s'appelle CFO Connect, c'est pas très logique que tu viennes lui imposer la frontière. Enfin, je veux dire, la frontière, elle est définie, c'est les CFO, que tu sois.
Exact.
Enfin, si t'es CFO, tu fais du coup, d'une certaine façon, déjà de base partie de cette communauté, quoi.
Exact. Et en fait, et puis il y a aussi un autre truc aussi, c'est le. Alors moi, c'est un sujet qui me passionne quand même pas mal, mais pour une raison, c'est qu'il y a une certaine. Il faut être. Ce que j'aime bien avec, c'est comme le brand ou la brand. Il faut avoir un certain lâcher prise.
Ouais.
Ok? Quand on fait du brand, on peut mesurer plein de choses, on peut faire plein de trucs, mais il y a une part d'incertitude. Les communautés, c'est pareil. T'auras beau mettre en place, il y a plein de modèles. Il y a des modèles qui te permettent de définir quelle est la valeur que tu mets sur ton business model, quelle est la valeur de la communauté et comment tu veux la suivre et la traquer. Ça te permet d'avoir un truc très marketé, très bien précis, enfin très précis, etc. Dans les faits, une communauté, tu la contrôles pas. Je veux dire, la porte, comme l'exemple que tu disais tout à l'heure de qui rentre pas. Moi, ce que j'ai bien aimé chez Atelier Particulier, par exemple, je l'ai vu aussi chez BPI France, qui sont très très forts sur la partie community grosse, alors qu'ils l'ont pas vraiment pensé comme ça, c'est qu'en fait, ils ne contrôlent pas comment les gens vont rentrer dedans. En fait, ils lancent la dynamique, ils animent le mouvement, ils s'assurent que le mouvement reste actif, ils essayent de le contrôler au sens où ils le redirigent dans des directions qui les intéressent quand ils ont des initiatives, des events, des trucs à sortir. Dans les faits, la communauté a une certaine forme d'autonomie. Elle va aller se mêler à d'autres communautés, elle va en aspirer d'autres. Certaines fois, elles vont se disloquer quand elles deviennent trop grosses. Ça a été très présent dans la partie grosse. Jusqu'à présent, c'était pas très mature, donc il y avait des grosses communautés existantes. Aujourd'hui, tout le monde lance ses groupes et ses initiatives grosses parce qu'en fait, ça se disloque et tu peux pas réellement le contrôler. Par contre, tu peux y ajouter des initiatives pour essayer de le lier à ton business et générer de la croissance.
Ça me fait penser à Nike.
Ah ben.
En fait, moi, je suis pas un parti. Je fais pas partie des clients Nike. Enfin, je dois avoir des produits, mais je veux dire, voilà. En revanche, je suis un très gros fan de la. Je sais pas le truc,
La vibe.
ouais, et puis le slogan, tu vois, le Just Do It, les pubs, les machins. C'est vraiment quelque chose qui me parle à fond, tu vois, c'est vraiment, mais ça me procure des émotions, tu vois, le sujet de la brand, hein, c'est vraiment des émotions qui sont très très fortes et tout. Et du coup, c'est vrai que je pourrais, si on devait dire, ah oui, est-ce que tu fais partie de la communauté Nike, tu vois, et que effectivement on définissait la communauté comme, voilà, tu fais partie du mouvement, tu es embarqué dans ce qu'ils proposent, dans leur vision et tout. Ah mais à 100%, tu vois. Enfin vraiment, voilà. Alors que je côtoie pas forcément des gens, mais ils ont un message et ils m'ont embarqué.
C'est l'appartenance à la marque, à l'univers, etc.
Ouais.
En fait, c'est un des leviers, toi, de la partie community-led growth. C'est le levier engagement. C'est comment tu stimules l'appartenance à la marque. Bon, bah Nike, forcément, c'est l'une des références établies. Apple est très fort sur ça.
Oui.
Apple et Nike ont réussi à le faire ensemble. Toi, c'est un truc qu'on sait pas trop, ça, mais au moment où, alors j'ai plus l'année en tête, mais au moment où l'iPod a été lancé, en fait, donc il y a un petit moment déjà. Quand l'iPod a été lancé, c'est le moment où Nike voulait essayer d'aller capter la communauté des runners, qu'ils avaient pas tant que ça en fait attrapé. En fait, elle était existante autour d'eux, mais ils n'avaient pas réussi
Fédéré.
à la fédérer et pour construire quelque chose dessus. C'est plus ça. Ils n'ont jamais réussi à le faire parce qu'en fait c'était très éclaté, etc. Et en fait, ils se sont basés sur l'iPod pour y intégrer ensuite l'application de running
Ouais.
dans lequel ils se sont servis de cet outil. Pour fédérer la communauté et générer un nouveau mouvement. Et en fait, Nike, là où ils sont vachement forts, c'est que quand ils veulent ouvrir une nouvelle verticale, un nouveau produit, etc., soit ils se prennent pas la tête à vouloir créer une communauté, parce qu'en fait, ils ont déjà un engagement qui est très fort. Par contre, ils sont très très forts pour aller capter des communautés déjà existantes. Quand ils ont voulu aller au Brésil pour, je sais plus exactement pour quel produit c'était, mais au Brésil, ils ont voulu organiser un gros truc, un gros événement pour la partie football. Ils ont été prendre la communauté des fans de Corinthians. Et en fait, ils ont co-créé un événement avec eux. Ce qui leur a permis d'avoir juste la communauté football la plus engagée du monde et de créer l'un des événements les plus stylés. Alors, c'est Nike.
C'est Nike.
C'est Nike. Mais du coup, ils ont bien compris la différence entre je dois créer ma communauté et en fait, je n'ai pas toujours besoin de la créer, je peux juste
Ouais.
aller copter des choses qui existent.
Oui. Oui, sachant que c'est vrai que quand on commence à toucher au milieu du sport, les communautés, a priori, elles sont déjà là.
Elles existent.
A priori, c'est
Il
OK,
n'y a
tu
pas de
vois.
sujet. En fait, tout ce qui touche à l'univers passion,
Ouais.
en fait, c'est le grand
Musique,
problème du community led
sport, ouais.
growth. C'est que moi, j'en parle depuis au moins 5 ans. Ça fait au moins 8 ans que je m'intéresse très, très fortement à la thématique. Et en fait, jusqu'à présent, quelle était la limite de community-led growth au sens business du terme? C'est qu'en fait, on n'a que des exemples lifestyle, que des exemples passion. Et moi, mon parti pris, c'est de dire en fait, pause, juste intellectuellement, regarde toi ta vie, et en fait, regarde que tu es membre de communautés de passion, parce que tu as tes propres, mais tu as aussi des affinités professionnelles. Et ces affinités professionnelles, elles ont toute vocation à pouvoir exister sous forme de communauté. Plus ou moins forte, plus ou moins, tu vas y mettre plus ou moins d'engagement et de temps. Bien entendu que dans une communauté pro, tu vas pas y passer 17 heures par jour.
Oui, et puis c'est aussi le reflet de l'engagement qu'a chaque personne dans son travail.
Exactement, exactement. Mais ça existe. Et donc en fait, c'est pour ça que la frontière B2C, B2B, à mon sens, elle n'existe presque plus sur la partie communauté. C'est qu'en fait, à partir du moment où on a intégré ça et qu'on est aligné avec cette vision-là, bah, en fait, quasiment n'importe quelle boîte peut lancer une stratégie community-led growth, elle l'appelle comme elle veut. Moi, tu vois, si je suis honnête avec moi-même, pendant 2 ans en tant que part-time, je ne vendais pas de mission community-led growth. Je vendais des missions, enfin, j'accompagnais sur les sujets d'acquisition, de rétention, etc., dans lesquels je plaçais des activations ou des manières de faire community-led growth. On retravaille ton CRM comme ça. On va faire telle ou telle chose. Ah, on va créer tel sous-groupe ici. Ah, on va faire ça, on va faire ça. Parce qu'en fait, c'était trop compliqué d'expliquer la dynamique complète community-led growth et que c'était beaucoup plus simple aux gens de dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remettre des touchpoints relationnels et s'appuyer sur des touchpoints pour générer des bénéfices business qui t'intéressent. Des feedbacks produits, du referral, des choses comme ça.
Ok. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc., ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Transition toute trouvée, je voulais parler des différences B2B, B2C. Parce que effectivement, les exemples qu'on a donnés, Nike, Atelier Particulier, etc., c'est très B2C. Et j'ai le sentiment que... je te partage un feeling, c'est... Je pense vraiment que le terme communauté, il est très galvaudé à cause du B2C.
Sûr.
C'est des marques qui vendent des produits, elles ont beaucoup de consommateurs, elles ont beaucoup de followers sur Instagram et du coup elles parlent de leurs clients en disant « ma communauté ». En B2B, j'ai l'impression que déjà quand les boîtes elles commencent à parler de communauté, on est déjà beaucoup plus proche du vrai et on est quand même un peu moins dans le bullshit et dans cette espèce de truc un peu inspirationnel et tout, on est quand même un peu plus dans le sérieux, tu vois. Mais surtout, moi la question que je me pose c'est est-ce possible pour une boîte B2B de créer une vraie communauté et c'est quoi les grosses différences que toi t'observes?
Alors, est-ce que c'est possible? Oui, sinon je serais pas là. En fait, les grandes différences, donc si je reprends la vision que j'ai du sujet, je reste aligné avec le fait que la frontière B2B, B2C, elle est de plus en plus poreuse. La différence, elle va se faire à deux grands niveaux. Le premier, c'est l'engagement maximal que tu vas pouvoir avoir. Parce qu'en fait, le community, c'est une stratégie marketing business qui repose sur la stimulation de l'engagement. C'est les fondamentaux. Donc en fait, sur du B2B, bien entendu, qu'en fait, la courbe d'engagement que tu peux aller chercher, elle est soit plus difficile à stimuler, soit elle est plus longue pour avoir quelque chose de très très fort. Donc c'est l'une des premières différences. Et la deuxième, c'est la manière dont tu vas pouvoir entrer dans la communauté et où en fait pénétrer le sujet communautaire avec ton audience. La partie B2C, il y a un côté très inspirationnel, lifestyle et plaisir, passion, qui fait qu'en fait, c'est pas que c'est plus simple, mais tu touches une corde sensible et c'est beaucoup plus naturel de réunir les gens autour d'une passion. Tu peux avoir des slogans engageants, oui. Tu peux faire des initiatives un petit peu cool, etc. Et il y a une certaine facilité à le faire. Modulo le fait que tout le monde le fait plus ou moins de bonne manière et que du coup, il y a un brouhaha qui est assez délicat. En B2B, alors parce que historiquement, je sais pas, c'est plus sérieux ou alors il y a des...
C'est corpo, quoi.
C'est plus corpo, voilà. L'approche est un peu différente, même si pour moi, par exemple, toi, moi, quand je fais un audit community, je n'ai absolument aucune différence dans ma méthode de travail entre le B2B et le B2C. Je fais les mêmes étapes à chaque fois. C'est juste que j'ai un niveau, par exemple, sur la partie audience, quand j'essaie de trouver, en fait, à qui je dois aller parler, quels sont les bénéfices que je dois stimuler et comment je dois rentrer dans son quotidien, enfin, qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à l'audience que je vais aller chercher pour créer la communauté. Je suis beaucoup plus attentif sur le B2B et je le fais beaucoup plus en profondeur. Parce qu'en fait, on doit rentrer dans un niveau de connaissance de l'audience où, en fait, tu dois faire la différence entre le déclaratif et le vrai ressenti. On est beaucoup dans le statutaire en B2B. Il y a beaucoup de communautés où on est là, on est présent dans les trucs, etc., parce qu'on veut se montrer, etc. C'est très, très dur de comprendre quel est le bénéfice sous-jacent ou le besoin que tu veux stimuler. Et tu vois, enfin, moi, j'ai un exemple là, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps un audit pour une marque d'assurance, pour un produit de prévention à destination des transporteurs routiers.
D'accord.
OK. Donc, potentiel B2B, de community, pardon. Enfin, sur le papier, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et eux, en fait, la problématique que cette boîte avait, est très simple, c'est une très grosse marque. Donc, face à une entreprise institutionnelle, etc. Ils n'ont aucun problème à vendre leurs produits à les marques de transporteurs routiers. En fait, ils sont tous dans leur portefeuille. Et quand ils sortent un nouveau produit, en l'occurrence, c'est un produit de prévention pour les routiers, ils le vendent. Sauf que à la fin de l'année, cette entreprise ne comptabilise le succès de cette vente que si le produit est utilisé par le routier. En fait, on s'en fiche du volume qu'ils ont vendu. Ce qui compte, c'est l'adoption. Et en fait, ils ont essayé plein de moyens traditionnels pour stimuler ça. Ils n'ont jamais réussi à le faire. Et en fait, moi, ce que j'ai bossé avec eux, c'est de leur dire, OK, on va aller voir, rentrer dans le quotidien de ces routiers. Parce que, en fait, faut aller comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Et c'est la même étape qu'on fait quand, je suis sûr, on fait de l'outbound, qu'on veut travailler sur le positionnement, le message, etc. C'est la même méthode. On a été voir. Et en fait, moi, le seul travail que j'ai fait, c'est j'ai été essayer de voir à quoi ils ressemblaient, ce qu'ils faisaient. Dans quel groupe ils étaient? Est-ce qu'il y avait des groupes dans lesquels il y avait déjà des communautés existantes? Est-ce qu'on pouvait s'intégrer dedans ou pas? Spoiler, on pouvait pas, parce que c'était tellement, tellement fort comme groupe qu'en fait, intégrer un institutionnel dedans, ça n'aurait pas marché. Donc du coup, la proposition, elle a été différente. C'était de se dire, on ne peut pas rentrer dans le groupe. Par contre, il existe des communautés de fans. Alors c'est un style un peu particulier, mais qui sont fans du coup de camions, qui sont fans
du
klaxon, etc. Et qui ont des relations ultra fortes avec les camionneurs, les transporteurs, et la communauté des restaurateurs routiers.
Et en fait, c'est les intermédiaires.
Et en fait, qu'est-ce qu'on a commencé à faire et qu'est-ce qui va être fait? C'est que le produit de prévention ne va plus être distribué et présenté que via ces intermédiaires-là, via des événements et des qui seront sponsorisés par la marque, et en fait, qui vont être absorbés par ces gens-là. Et parce qu'en fait, le rôle d'une marque parfois, en communauté, c'est pas de créer la communauté, mais c'est de permettre à une communauté de vivre sa passion. Et dans lequel il y a un échange de bons procédés. Moi, je pars du principe que les gens, si je rends un service à quelqu'un, les gens vont me rendre un service. Ça marche dans 7 cas sur 10. Ça marche à peu près pareil en community.
Alors, pour le coup, là, tu vois ce que tu disais sur parfois le rôle de la marque, c'est de permettre aux passionnés de vivre leur passion. Ça m'a immédiatement fait penser à Red Bull.
Exactement. C'est un très très bon exemple.
Pour le coup. Red Bull, les passionnés, ils étaient là. On a créé les événements pour que ils kiffent, quoi.
Mais parce qu'en fait, moi, c'est ça que j'aime bien dans le community, c'est que c'est un sujet qui fonctionne. C'est une stratégie qui fonctionne pas trop si t'as de l'ego.
Je suis d'accord.
Alors, je vais prendre l'exemple d'un fondateur, mais ça marche pour un CMO qui devait absorber le sujet. Une personne qui a un ego trop fort, qui pense qu'il doit être dans le contrôle ou qu'il est la personne parfaite pour générer le mouvement, etc. Si malheureusement ça ne l'est pas, s'il a trop d'ego, il ne s'en rendra pas compte et le projet va capoter. C'est sûr et certain.
Et pour moi, c'est exact. On rejoint sur le fait que le terme, il est galvaudé et que les gens, ils confondent client et communauté. Ouais. En fait, le terme communauté, il est tellement devenu trendy, c'est le truc, machin truc. L'ego des gens, en fait, c'est ça qui a fait que le mot n'a plus de valeur pour la majorité des boîtes, en fait.
Ouais, et puis parce qu'en fait, je pense aussi qu'on a. On a tous un peu envie de se dire qu'on est le leader d'une communauté.
Totalement.
Tu vois, moi, par exemple, j'anime un média, j'ai une newsletter pour les CMO, etc. de temps en temps, et j'ai envie de me dire ah ouais, trop bien, je suis leader d'une communauté de CMO. Je sais qu'à date c'est pas le cas, ça le sera peut-être plus tard, ouais. Mais de temps en temps t'as quand même envie de te dire ah putain, trop bien, c'est moi qui lead. Dans les faits c'est pas le cas, et c'est un vrai sujet, parce que y a beaucoup de marques qui ont vocation à prendre. L'un des meilleurs exemples en France, on n'en parle jamais, et du coup moi je les promeux beaucoup, c'est BPI France. BPI France, ils ont fait un travail exceptionnel, c'est que à chaque fois qu'ils ont lancé une verticale, French Fab, French Tech, le coq vert, etc., ils ont toujours commencé par réunir autour d'eux les dirigeants dans des communautés qu'ils ont animées, mais à qui ils ont laissé beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé un cadre, mais c'est les gens dedans, dans les réseaux, etc., qui avaient le rôle d'animer les choses. Donc c'était un leader, mais un leader, ok, c'est moi qui drive, mais au final, c'est toi qui anime et qui a le pouvoir. Et en faisant ça, ça leur a permis d'être ultra efficace lorsqu'ils ont dû sortir de nouveaux produits, quelle que soit la typologie de produit, en fait. Et en fait, ils ont accepté de se dire, c'est pas parce que je suis BPI France que je dois avoir le contrôle sur tout. J'ai un certain contrôle, mais certaines fois, en fait, je peux pas leader tous les sujets. Et c'est les initiatives un peu plus bas, même si elles sont d'un niveau un peu plus petit, qui vont créer des mouvements et qui vont permettre d'avoir du scale. Parce qu'en fait, le scale, ça peut venir juste de 50 membres. Chez Atelier Particulier, au départ, il y avait 100 membres. Et c'est ce qui a permis, c'est pas avec 100 membres que tu fais 70% de ton chiffre d'affaires à la fin. Mais tu dois accepter au départ de partir de ça, et ensuite de donner les outils à cette communauté pour scale, et pour grossir et aller chercher de nouvelles choses.
Ok. C'est quoi les... Alors, parce que t'as un peu partagé le fait que t'avais un peu ta méthode, etc. Tu peux nous accompagner un peu sur les différentes étapes de la méthodo. À quoi elle ressemble, cette méthode?
Alors, spoiler déjà, en fait je dis ma méthode, mais le comité des grosses, c'est un sujet qui est très très vieux. Tu vois, enfin moi quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, les premiers contenus que j'ai lus et sur lesquels que j'ai analysé, ça date des années 70. On parlait de marketing participatif, marketing tribal, etc. Donc c'est ma méthode, en vérité c'est des choses qui existaient depuis très longtemps. Mais...
tu es le leader de la méthode.
Exactement. C'est ma méthodologie que je partage au plus grand nombre.
À ta communauté.
Exactement. Putain, j'espère. Donc en fait, enfin moi j'ai une sorte de framework que j'utilise quel que soit le business et quel que soit le... En fait, le premier point, c'est de vérifier si la marque elle a la bonne appétence pour aller développer une stratégie community, que ce soit en termes de ressources financières et surtout de ressources internes. Et en fait, je passe par un premier framework qui, premier niveau, c'est quelle est l'apport business, quelle est la volonté business de la communauté. Donc c'est en fait d'un point de vue business, pourquoi je veux faire une communauté. Parce que ça, c'est un sujet qui revient très souvent. Ouais, le community lead growth, en fait, c'est de l'animation, c'est sympa, c'est marrant, etc. Mais comment je rapporte du business? Alors, premier niveau, quel est l'apport business? Et ça se découpe en fait en six grandes lignes. C'est un autre modèle qui s'appelle le Space Model et qui en fait découpe le support, le produit, l'acquisition, l'engagement, etc. jusqu'au succès. Tu définis à quel niveau tu vas apporter du truc. Est-ce que tu veux que ta communauté t'amène de nouveaux leads? Est-ce que tu veux que ta communauté, par exemple, d'un point de vue support, elle soit un relais pour apporter des réponses aux gens, etc. Parce qu'en fait, ils ont l'engagement pour. C'est très présent, par exemple, dans l'univers tech. Est-ce que tu veux que ta communauté, elle ait un apport sur la partie contribution? C'est en fait, je veux que ma communauté m'aide à faire de l'événementiel. Duolingo, en fait, ils ont créé leur stratégie sur ça. Une fois que tu as déterminé comment tu voulais stimuler d'un point de vue business, tu descends d'un échelon et tu vas sur quels sont les bénéfices que je veux créer avec ma communauté et comment je l'engage. Donc, c'est un peu la proposition de valeur de ta communauté. Pourquoi elle existe, qu'est-ce que tu veux apporter sur le marché. C'est vachement important parce que tu vois là, par exemple, on prend l'exemple des freelances. Il y a je sais pas combien de communautés de freelance qui existent. En fait, quelle est la j'aimerais bien un jour prendre 50 groupes et leur demander quelle est leur proposition de valeur et voir s'il y a quelque chose de différenciant. Sinon, tu peux pas vérifier ton community market fit, quoi. Et ensuite, ajouter dans ce niveau-là, comment tu le scales. En fait, il y a deux niveaux qu'il faut avoir. C'est comment tu fais pour faire grossir ta communauté tout en conservant un engagement qui conserve les mêmes standards de qualité. Pas forcément l'améliorer, mais au moins les mêmes standards. Le risque premier dans une stratégie community-led growth, c'est de croître et de voir en fait ton engagement baisser. Parce que ça, c'est voué à l'échec, parce que vu que la communauté en fait ne vit que par l'engagement, si ça baisse au fil du temps, t'auras beau avoir 1000 personnes qui rentrent chaque mois, à la fin de l'année, c'est terminé. Elle va se disloquer ou en tout cas, tu vas en perdre le contrôle. Donc ça, c'est définir ce point-là. Et dernier point, c'est le point tactique. Donc c'est vraiment le sujet qui arrive le plus bas possible. C'est quelles sont les tactiques que je vais mettre en place pour contribuer à ce que je viens de dire juste avant. Donc, est-ce que je vais être content driven? Est-ce que je vais lancer du contenu, puis je vais aller chercher les gens pour qu'ils contribuent avec moi? Est-ce que je vais être event driven? Est-ce qu'en fait, du coup, je vais essayer de créer un événement et créer, en fait, réunir autour de moi des gens qui sont déjà plus ou moins réunis, mais ils n'ont pas de lieu? Et donc, je fais le super event pour eux. Par exemple, CMX aux États-Unis, il a créé l'event pour les community builders. Et en fait, plusieurs fois dans l'année, il réunit tous les community builders des US et du monde. Ça n'existait pas avant. Et en fait, c'est the place to be. Quand tu es comme moi, que tu es passionné, que tu sais pas où aller, bah, tu consommes le contenu et en fait, ça change ta vie, quoi. Donc ça, c'est les trois grandes étapes pour vraiment découper ton process entre quelle est la vision business, quelle est la vision communautaire et quelle est la vision tactique.
Ok. Très cool. Ça me fait penser là aussi le côté event. Alors bon, c'est un milieu que je connais pas, mais j'ai cru comprendre que c'était que ça rentrait totalement là-dedans. C'est Penny Lane avec les comptables qui ils font un événement qui s'appelle Contatech. Et j'ai eu le sentiment, j'ai fait un épisode avec Maxime le CMO, que j'invite tout le monde à aller regarder. j'ai eu le sentiment, enfin en tout cas de mes souvenirs, c'est vraiment un événement où en fait c'est le seul événement en France où tous les comptables en fait ils se réunissent et ils partagent les best practices, les machins. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que tu dis là.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, historiquement, alors ça fait un peu vieux quand je dis ça, mais dans les faits, si on prend par exemple les 100 plus grosses communautés ou celles qui sont les plus dynamiques, ont le plus de succès, etc., elles sont soit stimulées par le contenu, soit stimulées par l'événementiel. C'est vraiment les deux grands leviers qui te permettent de soit d'engager ta stratégie, soit de les stimuler. Et tu vois, enfin pour le Penny Lane et les comptables, en fait, ils ont répondu à un pain. C'est-à-dire que je sais pas combien il y a de comptables en France, j'en sais rien, ou même dans le monde, mais ça doit être astronomique. En tout cas, j'en connais beaucoup, donc je suppose que oui. Je suis pas le seul. Et effectivement, en fait, quel est comment tu peux les relier les gens ensemble? Et c'est ça qui est important aussi avec le sujet community-led growth, c'est qu'il est universel. Et c'est pour ça que j'y accorde autant d'intérêt, c'est qu'en fait, tout le monde, quasiment tous les métiers et toutes les verticales, ont vocation à pouvoir être stimulés de manière plus ou moins forte, parce que, en fait, on a tous vocation à être réunis avec un pair. On a tous un jour besoin du retour de quelqu'un, etc. Et par exemple, pour répondre au sujet événementiel, bah bien entendu que ça me ferait, en tant que membre ou en tant que comptable ou CMO ou autre, en fait, c'est un plaisir de me dire qu'un jour, je peux aller quelque part et retrouver des gens qui ont les mêmes problèmes que moi, les mêmes envies, qui vont pouvoir m'aider à, je sais pas, à grandir, etc. Il y a un sujet statutaire aussi, peut-être être associé aux bonnes personnes. Mmh. Et en fait, ça répond à un pain qui est tellement évident que les gens, ils créent de l'engagement et ensuite, tu peux carrément générer du business avec ça.
Ok. Toi qui accompagnes des boîtes dans ces démarches-là, c'est quoi un peu les erreurs les plus communes que tu observes?
Alors, il y a plusieurs... Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau très high level, c'est en fait d'avoir une mauvaise compréhension de ce qu'on doit ou peut faire avec une approche communautaire. C'est-à-dire de se dire, ok, je veux faire du community-led growth, donc je vais créer un groupe, par exemple, juste pour mes clients. Et c'est le plus direct, mais ce qui est finalement en fait le plus gros problème, parce qu'en fait, on esquive toutes les étapes intermédiaires.
Oui.
Comme quand on doit faire une stratégie marketing de base, c'est à qui je parle, enfin quelle est ma proposition de valeur, à qui je parle et par quel canal je passe. Donc ça, c'est la première grosse erreur, c'est de se dire ok, je vais juste créer un groupe et ça peut être ultra déceptif. Parce qu'en fait, on va se rendre compte, ça peut casser l'initiative, parce que t'as le dirigeant ou le CMO qui veut lancer son truc, il va chercher ses meilleurs clients, il les met dans un groupe, et quelle que soit l'activité qu'il met dedans, il se passe rien. Et parce qu'en fait, nécessairement, ils ont peut-être pas besoin de ce groupe. Ça se trouve, ils ont un WhatsApp entre eux, tu l'as pas vérifié, et du coup, en fait, c'est un caillou dans la chaussure pour eux, etc. Donc ça, c'est la première grande erreur.
Oui, et puis du coup, la conclusion, c'est « Ah non, mais la communauté, ça marche pas. »
Et du coup, ils se disent « Bah, ça marche pas. » Et en fait, ça m'est pas arrivé. Mais si un jour, on me présente le cas, j'aurais envie de lui dire, je lui prendrais un autre sujet, je lui parlerais du content, par exemple. Je lui dirais « Vas-y, ça, c'est les étapes clés pour faire du content et faire du gros avec. Est-ce que t'es d'accord ? Oui, non. Bah, voilà. Pourquoi on fait pas pareil sur le truc ? » Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est sur de la relation humaine qu'il y a pas une approche marketing clé. Le second... et qui ouvre une grande porte, c'est de ne pas y mettre de KPI. En fait, de ne pas vouloir de se dire, ok, on est que dans de l'humain, donc on ne veut pas essayer de mesurer. Normalement, si tu respectes les étapes que j'ai données avant, la partie quel est l'apport, enfin le bénéfice business et quel est le bénéfice community, tu es censé pouvoir mettre une data ou en tout cas un KPI que tu veux suivre et de te dire, OK, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, avec un delta plus ou moins fort, mais tu dois pouvoir le faire. Et le dernier point, c'est de sous-estimer l'importance du mouvement qu'on doit créer au départ. C'est-à-dire que le community led growth, il y a de la strat, il y a du mindset, enfin tout ce qu'on veut, mais il y a un départ qui est universel pour tout le monde, c'est il faut créer du mouvement. Et le mouvement, il faut trouver quelqu'un qui soit capable de le porter. Soit c'est dans ta boîte, soit c'est en externe, tu as des community builders qui peuvent le faire ou pas, que tu recrutes ou pas, soit tu t'appuies sur des gens qui ont déjà des communautés et tu essaies de co-créer quelque chose avec eux. Mais tu es obligé de générer du mouvement, les gens ils vont pas t'accorder du temps comme ça parce que tu es gentil ou parce que tu as une super audience, etc. Donc c'est les trois grosses erreurs.
Ok. Tu vois, là je me pose la question de, du coup, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de prérequis, tu vois, pour... En fait, et c'est un peu le même sujet que le content, finalement. Ouais. Donc c'est cool que tu parles aussi du content, parce que le content, c'est pas juste je vais faire un contenu, c'est comme LinkedIn, tu vois, je vais faire un post, je vais poster, puis en fait, c'est bon, ça va marcher. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, ouais. Tu vois. Ouais. Et donc, le contenu, souvent, les boîtes sous-estiment le fait que ça prend du temps, ça demande de l'énergie, tout ça, tout ça. Quand une boîte, elle veut lancer des initiatives, d'un point de vue équipe, tu vois, ressources, équipe, d'un point de vue contenu, c'est quoi pour toi les éléments sur lesquels tout de suite il faut que la boîte elle est en tête? Non, mais ça, en fait, quoi qu'il arrive, si tu veux lancer des initiatives, ça, c'est les ressources dont tu vas avoir besoin. Un peu, tu vois, le starter kit.
Alors, c'est une bonne question parce que c'est le sujet qui revient le plus lorsque j'en discute avec des fondateurs ou des CMO. Pour moi, alors c'est, je pense que ça dépend un peu des ambitions de chaque entreprise. En fait, il faut mettre tes ressources au regard des ambitions que tu veux avoir avec ton approche community-led growth. Mais de base, ce qui va compter, d'un point de vue juste humain, ce qui est important, c'est de se dire que le sujet community-led growth ne doit pas être un sujet qui arrive dans une to-do d'une personne qui a déjà... Toi, si t'es un marketing manager ou un community manager, par exemple, ça ne peut pas être genre un sous-sujet de sa to-do. Donc, en fait, c'est forcément une personne. Ça veut pas dire que tu le mets à 100% sur le truc. Moi, quand j'ai commencé chez Atelier Particulier, j'avais au moins 35% de mon temps en semaine qui était dédié à cette partie-là. Je suis monté à 50% assez rapidement. Mais c'est directement une partie importante de son travail parce que tu as un besoin de connexion avec les gens, d'animation, etc. qui est fort. Ensuite, sur la partie content, par exemple, si tu veux combien tu dois produire, etc. Le volume, à mon sens, importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est... Alors, on va rentrer dans les clichés du contenu, mais il faut que ce soit... En fait, il faut que ce soit quali, mais il faut surtout que ce soit récurrent, en fait, que tu aies un mouvement récurrent, etc. Et que c'est, en fait, que tu mettes en place des principes... Il faut que tu mettes en place des principes qui se répètent, de la répétition, du rituel. Si demain, je devais lancer de zéro, par exemple, une communauté pour une boîte B2B ou j'en sais rien, ce que je lui dirais, c'est OK... Toi et moi, on va bosser ensemble sur la strat. Une fois qu'on aura identifié à qui on veut parler, etc., le starter pack de base, c'est il faut qu'on ait une personne de ton équipe qui alloue 50% de son temps pendant 2 mois et qu'on ait la capacité de produire, si par exemple on fait du content, au moins un contenu par semaine dédié à ça, mais qu'on soit en capacité d'interagir tous les jours avec les gens. C'est un peu le prérequis. Si t'es pas capable ou si t'as pas envie de te dire tous les jours je vais interagir avec les personnes de ma communauté, en fait, le fais pas. Parce qu'en fait, tu rentres pas dans le principe de la community led growth, c'est poser des questions, c'est écouter, c'est aller stimuler, c'est s'intéresser aux gens, etc. Et c'est pour ça que tout le monde n'a pas le profil pour. Il y a des gens, ils sont pas forcément très... ils aiment pas trop... Enfin, leur passion, c'est pas d'écouter la vie des gens. Bon, bah, du coup, si t'as pas l'oreille... Si t'es pas excité par le fait d'écouter plein de personnes, découvrir plein de vies, c'est pas le bon truc. Après, d'un point de vue ressources, à mon sens, t'as pas besoin d'un investissement ultra fort. Tu vois, je pense vraiment que tu peux réutiliser quasiment tout le contenu que tu produis en marketing content dans ton approche communautaire. Et après, par exemple, ce qui compte beaucoup, c'est tout ce qui touche à la co-création. En fait, si tu utilises le levier contribution dans ton space model, c'est l'un des leviers business, si tu décides de faire de la contribution et que tu es dans une approche où tu co-crées des choses avec ta communauté, tu n'as quasiment rien à produire, si ce n'est de les accompagner, leur donner les ressources pour. Donc soit les stimuler pour qu'ils créent du contenu ou des choses pour toi, soit leur donner les ressources, les réunir, soit des choses comme ça. Et ça suffit pour lancer des dynamiques. Et tu n'as pas besoin de 1000 personnes, tu peux commencer avec 50.
Il y a un point qui est important, c'est quand tu disais il faut parler tous les jours avec les gens. C'est parce que je comprends bien qu'effectivement il faut se définir une régularité, etc. C'est comme le contenu, comme quand tu te lances en SEO, si c'est pour poster un article tous les 3 mois, bon, tu fais pas du SEO, quoi. Enfin, voilà.
Exactement.
Mais cette partie de interagir avec les gens, si c'est pas tous les jours, ça sert à rien.
Alors, je suis extrême sur ce point-là. D'accord. Parce que c'est provocateur. C'est juste que si t'es une boîte, quel que soit ton niveau de maturité, et que tu n'as pas envie d'envoyer un message par jour aux gens de ta communauté et de leur partager une news sur ce que tu fais et leur demander un truc sur eux, bah, tu vas pas, y arriver.
Ouais,
pas y arriver. Dans les faits, moi, tu vois, par exemple, on va prendre la boîte d'assurance. Bien entendu, je sais très bien que cette boîte, elle n'aura pas une personne dédiée pour le faire. Mais c'est pour ça que leur stratégie, c'est une stratégie de cooptation. Ils vont chercher des communautés existantes et ils leur donnent les ressources.
Oui,
et en fait, ils vont juste faire des événements tous les mois pour ces gens-là. Et en fait, ça va vivre tout seul. Et c'est...
Oui, mais parce qu'il y a quelqu'un,
qui
joue
va faire
ce
vivre.
Rôle tous les jours.
Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, alors ça, c'est quelque chose que je suis... C'est un peu stratégique. Jusqu'à présent, tout le monde disait que les communautés, c'était content ou event-driven. Moi, ma vision à moi, c'est que les communautés, en B2B notamment, elles sont créateurs-driven. C'est-à-dire qu'en fait, l'un des nouveaux leviers de croissance pour les boîtes, c'est que tu n'es pas obligé de la posséder. Et je vais encore plus loin sur cette thématique-là. C'est qu'il y a des créateurs de contenu qui existent, il y en a partout, qui sont plus ou moins bons, et ils ont tous vocation à lancer leur communauté. Tous. Et là, j'en connais plein, en 2024, ils veulent lancer et monétiser leur communauté. Ces gens-là, il y en a très très peu qui vont y arriver, parce qu'ils n'ont ni les ressources financières, pas forcément le volume d'audience nécessaire. Ils vont avoir besoin d'entreprises, de marques dans lesquelles il y a une affinité brand en termes de positionnement, etc., pour stimuler cette création de communauté. Et en fait, ces boîtes B2B, elles vont devoir leur apporter ces ressources. Et il y a plein de boîtes dans plein de business, elles vont pouvoir se faire un listing de 3-4 créateurs et se dire, OK, on veut faire tel event, ou alors on veut co-créer tel contenu, ou alors on a besoin de feedback sur tel produit. On va aller s'appuyer sur tel créateur qui a telle audience. On sait que c'est quali, on sait que c'est bien. On va lui donner les ressources pour créer un groupe bêta testing au sein de sa communauté ou de son audience pour faire quelque chose. Et finalement, en fait, l'animateur devient le créateur et ça permet en termes de scale d'aller chercher plein de personnes à plein de moments, de les mettre en synergie ou pas, de les décorréler. Et en fait, je pense que c'est une bonne manière de répondre à la problématique de quelles ressources je dois mettre.
Transition toute trouvée avec un sujet que je voulais aborder qui est les influenceurs.
Mmh.
Bon, en B2B, c'est vrai que parler d'influenceurs, c'est un peu particulier. Donc là, tu as employé le terme de créateur, mais on est d'accord que c'est
plus sexy.
Voilà,
la créateur économie, j'aime bien. La
créateur économie, c'est quand même un peu plus sexy. En fait, tu vois, ça c'est un petit peu la même chose. C'est les marques qui vont s'adosser à un influenceur. Là, je parle B2C, B2B.
Ouais, ouais.
Je suis RhinoShield
okay.
et je vais sponsoriser les vidéos de McFly et Carlito, de Squeezie, etc.,
ouais.
etc. Et je vais me dire comme ça, je vais toucher leur communauté.
Ouais.
Tu vois. Bon, on peut débattre de l'aspect communauté. Je pense que c'est plus ce qu'ils appellent communauté, c'est plus audience de fans. Mais quoique maintenant, il y a vu qu'il y a les Discord, il y a les contributeurs sur les Discord, etc. Donc effectivement, on est déjà un petit peu plus dans la communauté. Est-ce que c'est... Enfin, tu vois, est-ce que... Je reprends ton exemple de routier.
Ouais.
Il y a des clubs.
Ouais.
Les clubs, c'est déjà des petites communautés en soi. Je fais partie du club, tu vois. Les influenceurs, tu peux pas vraiment dire « Je fais partie du club Squeezie ».
Non. Mais vas-y, termine, pardon.
Non, mais du coup, tu vois, c'est là où je me dis... Il y a clairement une espèce de move à faire entre les créateurs, les clubs, etc., tu vois. Mais j'ai l'impression que quand on parle de communauté de Squeezie et quand on parle de la communauté des fans de voitures de collection,
ouais.
On n'est pas en train de parler de la même chose.
Alors, c'est pas exactement la même chose. Déjà, moi, je fais le distinguo, enfin, je fais une grande différence entre le sponsoring d'un influenceur,
okay.
B2B ou B2C, et l'envie d'aller capter sa communauté ou en tout cas de lui donner les moyens de transformer son audience en communauté. Le sponsoring, c'est ce qu'on a fait, enfin c'est ce qui existe depuis toujours. C'est j'identifie qu'il y a un créateur de contenu qui parle à mon audience. Je veux rajouter un touchpoint. Je paye pour être présent sur son contenu et c'est un touchpoint en plus dans mon action marketing.
Oui, tout à fait.
Fan, enfin c'est nickel, il y a pas de problème. Pour moi, en fait,
c'est pas de la communauté.
C'est pas de la communauté. Et il y a plein de créateurs. Et en fait, l'opportunité, elle se trouve là. C'est que tu as des créateurs de contenu, que ce soit en B2C ou B2B, qui ont peut-être déjà leur communauté. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Okay ? Et en fait, pour moi, l'opportunité des entreprises, elle va être de se dire, je sais qu'il y a des gens qui parlent à mon audience ou alors à des gens qui m'intéresseraient et qui ne sont pas forcément encore mes clients, etc. J'ai envie de les animer, de créer un espace et de... Enfin, alors, de jouer avec eux, ce n'est pas un bon terme, mais d'animer, de créer du mouvement avec eux. J'ai pas les ressources en interne où je me sens pas capable de le faire, et ben je vais aller chercher un créateur de contenu qui a l'ambition de le faire et qui a la capacité. Et donc du coup la différence c'est que ça passera jamais ou quasiment jamais par du sponsoring, ça passera toujours par des tactiques marketing différentes.
Tu dois co-création
de contenu, ouais. Le fait de faire participer les membres d'une communauté, d'un groupe à un événement, à du bêta testing, etc. Ça peut être le fait de créer un canal de communication dans lequel il y a un channel dédié à l'entreprise qui est animé par le créateur. Ça peut être le fait, par exemple, de se dire que tu as des gens, un truc qui est vachement en présence chez les CTO. Il y a plein de communautés de CTO. Elles n'utilisent, à mon sens, les CTO sont très actifs sur les forums. Il y a plein de forums, plein de groupes, etc. J'ai encore jamais vu de marque qui cible des créateurs de contenu qui parlent à cette audience et de leur dire, écoutez, nous, on a un vrai sujet support pour pouvoir répondre aux problématiques sur les forums, pouvoir répondre aux gens sur nos, enfin apporter de la réponse à nos clients lorsqu'ils ont des problématiques. En fait, moi je pense qu'ils devraient exporter une partie de leur support, par exemple sur un groupe Discord, et en fait les gens répondraient naturellement. Quand tu vas sur un groupe de gros hackers, quand tu poses une question, les gens ils te répondent. Et ben en fait c'est une manière de décloisonner ta stratégie de communauté, de la mettre dans les mains de quelqu'un d'autre entre guillemets. Donc par contre il faut accepter de pas avoir un contrôle total.
Non, mais on en revient à ce sujet.
Tu dois l'accepter, sinon ça se construit pas. Et puis de toute façon, tu ne peux pas capter de manière totale. Enfin, c'est la vie des gens, quoi. Donc, tu prends une place, t'existes en tant que marque ou en tant que business, etc. Mais les gens ont leur indépendance, c'est obligatoire. Et donc, en fait, pour revenir, c'est vraiment le distinguo entre la partie. Les gens qui nous écoutent et qui du coup vont se dire, ok, je vais aller sponsoriser 10 créateurs et je vais avoir une communauté. Ils vont faire de l'influence classique et c'est très bien, mais ils vont pas du tout stimuler. Et en fait, le move de fin, ce serait de passer par là, d'utiliser ces créateurs de contenu, de co-créer des choses avec eux, de tester plein d'initiatives, pour ensuite pouvoir rediriger les gens plus naturellement vers ta propre communauté. Et là, ça se ferait avec une fluidité extrême, comme moi j'ai pu le faire en B2C, où en fait, j'allais naturellement dans des forums existants, je suis devenu un membre de cette communauté en étant représentant de telle marque, je me suis pas caché, je suis Jolan, je travaille pour Atelier Particulier, mais je kiffe le vêtement, le savoir-faire, j'ai été membre de cette chose-là, et le jour où j'ai créé mon truc, les gens m'ont suivi, parce que en fait, c'était naturel de suivre. Et c'est le même mouvement avec une dimension un peu plus rapide, parce que vu que les créateurs ont déjà en fait, des audiences fortes, tu peux aller toucher 5, 10, 15 000 personnes et aller directement créer un noyau communautaire de 500 personnes en 2 mois. Chose qui était impossible, en tout cas je ne l'avais pas imaginé il y a un an.
Ok, trop bien. Niveau outils, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de créer des communautés?
Alors, c'est le sujet, alors, on me demande tout le temps, et en plus je suis hyper mauvais sur ça, parce que en fait l'outillage, c'est toujours le dernier truc que je regarde, vraiment le dernier des derniers. Ça m'est même déjà arrivé, c'est horrible de dire ça, mais ça m'est déjà arrivé dans un audit de ne pas mettre la slide sur quel outil tu fais, tellement genre ça me paraît... Parce qu'en fait, du coup, tu adaptes à chaque fois le canal ou en tout cas l'outil sur lequel tu veux te positionner en fonction de la communauté ou des gens que tu vas aller chercher. Donc en gros, il y a tellement de choix possibles. Tu vois, est-ce que tu dois te mettre sur Facebook, est-ce que tu dois te mettre sur tel ou tel réseau, est-ce que tu dois pas du tout utiliser d'outils mais faire que de l'événementiel, faire des réunions tupperware, parce que ça pourrait être une réunion tupperware B2B, ça pourrait exister, hein. Donc en fait je le mets toujours en dernier. Aujourd'hui il y a pas mal d'initiatives, là tout à l'heure je discutais, j'étais revoir ce qui se passait. Il y a Melting Spot qui est un super produit en fait, qui permet de réunir les communautés, de les animer et de faire le lien en fait avec ce que tu fais d'un point de vue CRM, etc. Ça c'est un super outil, et je pense qu'en fait il faut se tourner vers ces outils là mais seulement quand t'as un niveau de maturité qui est déjà assez bon. ou en tout cas quand tu as vocation à centraliser les choses et à vouloir avoir un contrôle ou à faire le lien avec tes autres initiatives. Donc,
il ne faut pas se tromper de combat, ce n'est pas ça qui va causer la création de la communauté.
Non, parce qu'en fait, sur la partie communautaire, pareil, enfin, comme il est de grosse, tu as bien entendu différentes stades de maturité. Enfin, tu vois, en fait, il y en a quatre. C'est le seed, c'est tu plantes la graine. Ensuite, tu as la partie croissance, le growth. Ensuite, quand tu arrives au stade de maturité. Quand tu es au stade de maturité, c'est que tu as atteint un certain... elle est autonome, elle vit toute seule, les gens rentrent tout seuls, les gens se scorent, enfin entre eux, il y a des niveaux de gamification, de ce que tu veux. Et après, c'est ce qu'on appelle, ça se disloque, et ça fait des petits groupes, etc., etc. En fait, pour moi, les deux premiers niveaux, qui vont concerner 95% des gens qui veulent lancer leur initiative, ils ont juste besoin de savoir quel avantage business, bénéfice business ils veulent faire, quelle est la proposition de valeur de leur communauté, à qui ils parlent, et ensuite quel est le meilleur canal pour aller stimuler juste les échanges. Et ça suffit pour réunir jusqu'à 2, 3, 4 000 personnes. Et après, j'exagère peut-être un peu, 2 000 personnes. Et après, là, tu commences à aller prendre un plus gros outil ou des choses un peu plus...
Ça laisse de la marge. Hein.
Ça laisse de la marge, ouais. Sachant que il y a quand même un effet sur la partie community où tu peux aussi décider d'avoir des différents segments. En fait, t'es pas obligé de si t'as plein de produits, si t'as une complexité dans ton univers. Je reprends l'exemple de BPI France, ils ont quatre grandes communautés différentes, tu vois, de plusieurs milliers de personnes à chaque fois. Il y a des gens qui sont un peu dans les deux, mais ils ont fait l'effort de vraiment les segmenter parce que en fait le bénéfice business et le bénéfice communautaire qu'ils ont, il est tellement différent qu'ils peuvent pas se permettre de réunir dans les mêmes outils, les mêmes channels, etc. Tous les membres. Donc, en fait, ils ont bien segmenté. Et après, là, maintenant, ils ont besoin de gérer tout ça, d'avoir un outil un peu plus fort. Ils font ça avec leur CRM, ils font ça avec. Je sais plus sur quel réseau ils sont. Je crois qu'ils sont sur un Slack. Et un Slack suffit pour absorber ces trucs-là.
Ok. Top. Écoute, moi, je pense qu'on a bien fait le tour Community-Led Growth. On a bien eu tout le playbook. Prochain challenge, c'est quoi les prochains sujets te concernant ?
Assez logique, hein, community les grosses. Donc mon objectif quand je me suis lancé à mon compte, etc., c'était de... En fait, j'ai pas envie d'être le cordonnier mal chaussé. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début, ça fait déjà 2 ans que je bosse sur ça, mon objectif, c'est de créer une communauté dédiée au CMO, en tout cas à l'univers marketing, et donc de pouvoir en fait... créer un environnement pour la croissance du CMO et en fait qui répondent à la base, c'était pour mes problèmes à moi, comment je fais pour me former, comment je fais pour évoluer, comment je fais pour comprendre les problématiques business sur lesquelles je vais tomber, prendre un peu d'avance et rencontrer les bonnes personnes, etc. Donc moi, mon prochain défi, c'est de créer cette communauté et de l'animer. Et en fait, du coup, c'est un projet que je mène depuis quelques mois avec Emmanuel Benoliel et on va lancer ça là, dans les prochains mois. L'objectif, en fait, c'est créer un environnement dédié à la croissance du CMO, où en fait, qui sera lié avec une partie contenu, plateforme de formation, vraiment dédiée à ce que la personne puisse évoluer et avoir les ressources qui lui conviennent au bon moment. Et donc, et une partie communauté, où en fait, on capitalise sur le peer-to-peer pour chaque CMO puisse en fait développer son activité, développer son aspect professionnel, etc.
Ok, alors du coup, j'ai une question parce qu'on n'a pas abordé un point et je pense que c'est un bon moyen de... Voilà, c'est... Moi, je ne suis pas encore CMO, mais je veux le devenir.
Ouais.
Tu vois, je veux vraiment le devenir. Est-ce que du coup, tu vois, dans ces cas-là, est-ce que la communauté, elle intervient au moment où ça y est, je le deviens, ou est-ce que ça peut être un levier qui va me permettre de le devenir ?
Alors... C'est une super question, parce qu'en fait, je me suis même posé la question au moment où j'ai commencé à travailler sur cette thématique de comment je fais pour créer un environnement pour le CMO. En fait, à mon sens, et c'est ça qui est vachement bien avec la partie community, c'est que ça permet d'absorber énormément de personnes à des stades de maturité différents sans, alors le terme jugement de valeur n'est pas le bon, mais en fait, sans se dire, ok, lui, il n'est pas membre. En fait, à partir du moment où tu rentres et que tu es aligné avec la proposition de valeur,
Et
le mindset, etc., tu peux profiter des bienfaits de la communauté.
Ouais.
Et donc, en gros, si on, par exemple, on lit avec ce qu'on veut faire ou avec l'idée qu'on en a, bien entendu que nous, on essaye de créer l'environnement le plus adéquat pour que, en fait, le CMO puisse débloquer tout son potentiel et aller au bout de ses projets, de ses ambitions. Bien sûr que dans les gens qui vont nous rejoindre, il y aura des gens qui n'auront pas l'étiquette CMO, qui auront peut-être juste l'envie, la vocation ou qui seront pas très loin, mais qui vont avoir besoin de cette étape-là,
oui,
pour passer ce step. Et en fait, c'est ça juste quel est l'avantage de faire du peer-to-peer learning sur une plateforme? C'est qu'en fait, je l'ai vu dans ma croissance personnelle, mais aussi de mes pairs CMO en fait, avec qui je discute tout le temps, l'apprentissage va 10 fois plus vite quand tu es avec d'autres personnes.
C'est clair.
Et donc, en fait, ce serait assez idiot de notre part, en tout cas pas smart d'un point de vue juste business, de vouloir la fermer. Parce que l'idée, c'est d'aller chercher des personnes qui fit avec notre proposition de valeur et juste leur donner les bonnes ressources pour qu'ils puissent grandir comme ils le veulent. Et si ils grandissent assez vite, ils seront ensuite ils apporteront de la valeur au reste des membres, etc. etc. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir le plus possible. Et en fait, le tri va se faire naturellement. Les gens qui ne rencontreront pas les problématiques dont on va parler ne seront pas sensibles,
mais bien sûr,
en fait, au sujet, et donc ils n'accepteront pas de payer, de revenir, etc. Parce que on va faire un travail, on va respecter toutes mes étapes, et donc en fait, en respectant ces étapes-là, on est sûr d'aller chercher des gens qui sont concernés par le sujet.
Ok, excellent. Bon, j'ai hâte de voir ça.
J'ai hâte de présenter tout ça et de voir comment ça réagit.
J'ai vraiment hâte. Ok, et en attendant,
ouais,
on te retrouve sur LinkedIn, on te retrouve ta newsletter.
Exactement.
Ouais. SAV des CMO.
Exact. Bah, tout le monde peut me contacter sur LinkedIn, je suis assez réactif. Si vous voulez suivre un peu de contenu, découvrir des frameworks sur le community Lead Growth, je pense que c'est le bon lieu. Et à côté, j'ai ma newsletter SAV des CMO, qui n'est pas dédiée qu'au community. Je parle vraiment de... Je partage en fait toutes mes ressources qui m'ont aidé et qui m'aident toujours. C'est un peu mon journal de bord de CMO, le SAV. Et voilà, donc c'est vraiment les deux endroits où on peut me contacter et je serai avec plaisir pour échanger.
Merci beaucoup, Jolan.
Merci, Jordan.
Merci. Et puis, pour toutes les personnes qui nous écoutent encore, n'oubliez pas le petit like, commentaire, tout ça, tout ça. Et on se retrouve la semaine pro. Ciao. Do it. Just do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.